VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 21 juillet 2017 en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que s'ouvrent à Abidjan les Jeux de la Francophonie.
Par ailleurs, l'ex-chef rebelle Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, demande pardon même à l'ancien président Laurent Gbagbo.
Au Sénégal, la Cour suprême refuse la liberté provisoire au maire de Dakar, Khalifa Sall, un rival du président Macky Sall.
Au Burkina Faso, le putschiste Gilbert Diendéré a lui obtenu une liberté provisoire dans l'affaire Sankara, mais reste en prison.
Au Maroc, des dizaines de blessés dans des affrontements hier entre forces de l'ordre et manifestants dans le nord du pays.
Ici à Washington, relations de plus en plus compliquées entre le président Donald Trump, son ministre de la Justice et d'autres officiels impliqués dans l'enquête sur l'affaire russe.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Ouverture des Jeux de la Francophonie ce vendredi à Abidjan. Près de 4000 athlètes et artistes de 53 pays sont attendus pendant les 10 jours que dureront les Jeux. Le point avec Morgane Guiriec.
Il s'agit du premier grand événement international organisé par la Côte d'Ivoire depuis son retour à la paix civile en 2011, après une décennie d'instabilité politico-militaire. La première puissance francophone d'Afrique de l'Ouest espère faire des Jeux de la Francophonie une vitrine. Mais en toile de fond, les troubles persistent. De nouveaux incidents impliquant les forces de sécurité ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi à Abidjan, faisant un mort. Des fusillades quelques heures après un remaniement pour mettre un terme à la grogne récurrente au sein des forces de l'ordre. Selon le gouvernement, l'école de police de Cocody a été attaquée, visiblement dans le but de récupérer des armes. Les forces de sécurité sont intervenues, puis un nouvel accrochage s'est produit dans le quartier populaire de Yopougon, où des véhicules et de l'armement ont été retrouvés.
Toujours en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et ex-chef de la rébellion, a demandé jeudi pardon aux Ivoiriens et à son principal adversaire du passé, l'ex-président Laurent Gbagbo, écroué depuis 2011 à La Haye, où il est jugé par la CPI. Monsieur Soro dit demander pardon en vue d'une réconciliation nationale. Il est régulièrement accusé par ses détracteurs de comploter pour satisfaire ses ambitions présidentielles. Ce sont des rumeurs, je n'en tiens pas compte, a-t-il assuré.
Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a obtenu une liberté provisoire dans l'affaire de la mort de Thomas Sankara, mais il reste en prison pour sa participation au putsch de 2015. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le général Gilbert Diendéré a été inculpé en 2015 d'attentat, assassinat et recel de cadavres dans l'affaire Sankara. Il bénéficie de la liberté provisoire dans ce dossier, mais reste en prison pour son implication présumée dans d'autres affaires, dont celle du coup d'État manqué de septembre 2015. Il est poursuivi à ce titre pour atteinte à la sûreté de l'État, séquestration, terrorisme et crimes contre l'humanité. L'ancien chef d'État-major de Blaise Compaoré est également inculpé pour coup mortel et recel de cadavres dans le dossier d'Abo Boukari, un étudiant burkinabé enlevé et assassiné en 1990. L'avocat du général Diendéré, maître Baterlé Mathieu Soumé, dit avoir introduit une demande de remise en liberté pour les autres dossiers. Longtemps resté en veilleuse, le dossier de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara a connu une accélération sous le gouvernement de transition. En fin mars 2015, une enquête a été ouverte et 13 personnes, dont Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, ont été inculpées.
Au Niger, le maire de Niamey, la capitale, Hassan Seydou, a été révoqué jeudi par un décret pris en Conseil des ministres, a indiqué un communiqué gouvernemental lu à la radio sans aucune précision sur les raisons de cette sanction. À l'issue d'une visite de la ville, il y a une semaine, le président Mahamadou Issoufou avait reproché aux responsables municipaux leur insouciance incompréhensible, et c'est une citation, face à la grande insalubrité et au manque d'assainissement de Niamey.
Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté hier une demande de liberté provisoire du maire de Dakar, Khalifa Sall, a appris l'AFP auprès d'un de ses avocats, maître Seydou Diagne. La même requête avait déjà été rejetée par le juge d'instruction et la Cour d'appel. Monsieur Sall, un rival du président Macky Sall et candidat aux élections législatives du 30 juillet, est en prison depuis mars. Les recours ne sont pas terminés et une autre demande de liberté provisoire est depuis lundi pendante devant la justice sénégalaise, a précisé son avocat.
En Ouganda, la police a arrêté plusieurs personnes alors qu'elles faisaient signer une pétition contre une supposée réforme constitutionnelle. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Selon le porte-parole de la police ougandaise, le chef d'un petit parti d'opposition et 13 de ses militants ont été arrêtés hier pour rassemblement illégal. La veille, 56 autres personnes ont été arrêtées pour les mêmes motifs. Selon des médias locaux, les 14 arrestations d'hier se sont produites alors que les opposants faisaient signer une pétition contre une éventuelle révision de la Constitution qui ferait sauter la limite d'âge pour la candidature à la présidentielle, qui est présentement de 75 ans. Le président Yoweri Museveni, 72 ans, est au pouvoir depuis 1986 et selon la constitution actuelle, il ne peut pas se représenter en 2021 pour un sixième mandat consécutif. Le président a réagi à ce débat, demandant ainsi à des journalistes de ne pas perdre leur temps sur le sujet. Au début du mois, trois militants de l'opposition ont été arrêtés pour avoir mené une parodie de funérailles du président Museveni, de certains ministres et de parlementaires proches du pouvoir.
Le député tanzanien Tundu Lissu, numéro 2 de l'opposition au Parlement, a été arrêté jeudi soir, trois jours après avoir qualifié le président John Magufuli de dictateur. Membre du principal parti d'opposition, Chadema, il est également bâtonnier de l'ordre des avocats de son pays. Les raisons de son arrestation n'ont pas été précisées, bien que le porte-parole du gouvernement, Hassan Abbas, eût assuré dans la foulée des critiques formulées lundi par M. Lissu que le gouvernement n'acceptera pas qu'une personne ou un groupe de personnes abuse de la liberté d'expression.
Au Maroc, des affrontements hier après-midi entre les forces de l'ordre et des manifestants dans le nord du pays ont fait des dizaines de blessés des deux côtés, a appris l'AFP de sources officielles. 72 éléments des forces publiques et 11 manifestants ont été blessés, selon la préfecture d'Al-Hoceima. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène et de la force dans cette ville septentrionale et les localités voisines pour empêcher la tenue d'une grande marche prévue de longue date.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hein?
La Maison-Blanche a exprimé hier un soutien plutôt tiède au ministre de la Justice, Jeff Sessions, et n'a pas exclu le limogeage éventuel de Robert Mueller, le procureur spécial qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. La porte-parole adjointe, Sarah Huckabee Sanders, a dit que le président est de toute évidence déçu par la décision de M. Sessions de se récuser dans cette affaire. Devant l'insistance des journalistes, elle a ajouté plus tard « Il a clairement la confiance du président, sinon il ne serait plus ministre de la Justice. »
Mais les observateurs ne le voient pas ainsi. Dans une interview au New York Times, M. Trump avait dit mercredi soir qu'il n'aurait jamais nommé Jeff Sessions à son poste s'il savait qu'il allait se récuser. Le président américain avait aussi averti M. Mueller, le procureur spécial, de ne pas franchir une certaine ligne rouge en commençant à se pencher sur ses affaires financières. Mais selon Bloomberg News, Robert Mueller est en train de faire exactement cela.
Le Qatar a annoncé hier avoir amendé sa législation sur la lutte antiterroriste, l'un des sujets controversés à l'origine de la crise qui oppose l'émirat à ses voisins, qui l'accusent de soutenir des groupes extrémistes. Un décret-loi promulgué par l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani définit les notions de terroristes, des crimes et entités terroristes, ainsi que du financement du terrorisme. Le document établit deux listes nationales pour les individus et les entités terroristes et énonce les mesures nécessaires pour pouvoir les porter sur ces listes.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a ajouté jeudi deux groupes armés syriens, deux sociétés de transfert d'argent et quatre personnes sur la liste noire des sanctions pour leurs liens supposés avec le groupe État islamique et Al-Qaïda. Les huit noms figuraient dans l'annexe d'une résolution rédigée par les États-Unis sur la lutte contre le terrorisme qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil.
Après 9 ans derrière les barreaux pour sa participation à un vol armé, l'ex-star du football américain O.J. Simpson a obtenu jeudi sa libération anticipée. Nouvel épisode de la saga d'un homme qui continue de fasciner l'Amérique, Jean-Roger Bion.
La commission des libérations conditionnelles de l'État du Nevada a voté à l'unanimité et O.J. Simpson, 70 ans, pourrait retrouver la liberté dès le 1er octobre de cette année. Mais l'avocat d'O.J. Simpson, Malcolm Lavergne, a dit avoir douté jusqu'au bout des chances de son client d'obtenir une libération conditionnelle. Monsieur Simpson est évidemment un personnage qui divise. Il est très très aimé, mais il est aussi méprisé par beaucoup de gens, a-t-il dit. Célèbre dans le monde entier pour avoir été acquitté du meurtre de son ex-femme et de l'ami de cette dernière dans un procès retentissant et ultra médiatisé dans les années 90, O.J. Simpson avait été condamné en 2008 à une peine de 9 à 33 ans de prison dans cette autre affaire de vol à main armée. La série de presque 8 heures qui lui a été consacrée, O.J. Made in America, a reçu en février l'Oscar du meilleur documentaire.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Arzuma Compaoré.
Le Niger souhaite mettre fin à la ruée vers l'or dans le sud-ouest du pays. Il a ainsi annoncé la fermeture définitive de plusieurs sites aurifères, dont ceux de l'Iptako, fermés depuis le 15 juillet 2017. Ces clôtures obligent les orpailleurs à arrêter toute activité sur ces sites. Environ 20 000 personnes, dont des Nigériens, des Burkinabés, des Maliens et des Sénégalais, exploitent l'or de la manière artisanale au Niger. L'association Afribana a officiellement été lancée hier à l'occasion de la visite du ministre camerounais du Commerce, Luc Antagana, à Bruxelles. Cette plateforme, regroupant des producteurs et exportateurs de fruits du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, sera un outil de négociation et de défense du secteur fruitier africain. L'idée est de rassembler les intérêts de la filière fruticole en Afrique, principalement la banane, l'ananas et les mangues, et d'accroître la présence africaine dans les échanges internationaux. En Ouganda, l'État veut faciliter la nationalisation des terres privées dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique des grands travaux. Les autorités souhaitent à cet effet simplifier la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit là d'une réforme qui a du mal à convaincre la société civile.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Pas d'équipe étrangère dans la CAN nouvelle version?
Tout à fait, Idrissa. Le comité exécutif de la CAF a validé hier une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes dès l'édition de 2019 avec un tournoi qui devra se disputer entre les mois de juin et juillet. Le Cameroun, qui doit en principe organiser la compétition, sera-t-il prêt? En tous les cas, l'Égypte ou le Maroc sont déjà en embuscade en cas de refus de la CAF d'organiser le tournoi sur le sol camerounais. Une visite d'inspection aura lieu en septembre, précise l'instance africaine de football. La compétition continuera à se jouer tous les deux ans, les années impaires et exclusivement sur le continent africain. Seules les sélections nationales africaines peuvent y prendre part.
Pas de changement, en revanche, pour les compétitions interclubs pour le moment.
Effectivement, les formats actuels de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération ont été maintenus. Cependant, à l'avenir, les compétitions interclubs devraient commencer à se jouer au mois d'août pour se terminer à mai.
Des recommandations ont été également faites pour le football des jeunes.
Oui, le comité a décidé de l'organisation d'éliminatoires zonales pour les Coupes d'Afrique des Nations, des catégories des moins de 17 ans, moins de 20 ans et moins de 23 ans. Chaque zone choisira une formule qui lui convient, mais le respect des âges des joueurs fera l'objet d'un suivi beaucoup plus rigoureux.
Les Jeux de la francophonie s'ouvrent aujourd'hui à Abidjan.
Oui, près de 4000 athlètes et artistes de 53 pays ainsi que de nombreuses personnalités sont attendus jusqu'au 30 juillet. La cérémonie d'ouverture a lieu tout à l'heure.
Football, transfert pour terminer. Mendy fait monter les enchères à Monaco.
Effectivement, le club monégasque aurait refusé une offre de Manchester City à hauteur de 50 millions d'euros pour son latéral gauche Benjamin Mendy. Selon les médias britanniques, Monaco souhaiterait une offre proche de celle obtenue par Tottenham pour son latéral droit Kyle Walker, engagé par les Citizens pour 57 millions d'euros.
Autre montant record en vue pour un joueur guinéen.
Oui, après avoir proposé en vain 74 millions d'euros, Liverpool pourrait effectuer une nouvelle tentative pour Naby Keïta. À 22 ans, le milieu de terrain international guinéen de Leipzig est sous contrat jusqu'en juin 2020 avec la formation allemande. Les Red Devils proposeraient désormais 79 millions d'euros.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le gouvernement a rejeté catégoriquement les accusations d'Amnesty International qui dit dans un rapport que son armée est coupable de torture ayant entraîné la mort de dizaines de personnes dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement estime que les soldats camerounais sont bien formés en matière de respect des droits de l'homme. Abdourahmane Dia a joint à Yaoundé Issa Chiroma Bakari.
Outragé, et nous rejetons catégoriquement de telles allégations qui ne sont pas fondées. Puisque c'est la voix de l'Amérique que j'ai, je voudrais rappeler que Boko Haram est en train de lutter contre le gouvernement et nos forces de défense et de sécurité parce qu'ils veulent amputer une partie de notre territoire pour constituer leur califat. Ensuite, Boko Haram aujourd'hui a complètement désorganisé notre économie. À l'heure où je vous parle, nous avons plus de 1600 civils tués, plus de 250 militaires qui sont abattus par Boko Haram. Évidemment, peut-être ça n'intéresse pas Amnesty International, mais le président de notre pays qui rend compte à son peuple de la manière dont il gère cette guerre, a présent à l'esprit toutes les souffrances, toutes les difficultés dans lesquelles cette horde de bandits de grand chemin nous a précipités. Je reproche également à Amnesty International de ne pas soumettre à une contradiction leur rapport.
Amnesty dit avoir essayé de contacter le gouvernement camerounais en vain.
C'est des histoires, je reçois tout le monde. Je suis la porte ouverte si un département ministériel le reste hermétique qui vient à moi. Moi, j'ai la clé passe-partout pour ouvrir les portes de tous les départements ministériels en ma qualité de porteur de la parole du gouvernement. C'est complètement faux.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même des fois des bavures ou même des amalgames entre les vrais combattants de Boko Haram ou leurs complices et des civils qui n'ont rien à voir dans cette insurrection?
Il se pourrait bien et c'est pour cette raison que nos militaires, surtout au niveau de l'encadrement, ils savent que le Cameroun est signataire de tous les traités, les conventions qui protègent et promeuvent les droits de l'homme. Et ils savent également que tout militaire pris en flagrant délit de violation des droits de l'homme est poursuivi, traduit devant la cour martiale et jugé en conséquence. Alors maintenant qu'il y ait des Boko Haram qui s'infiltrent parmi les civils, c'est une possibilité. Et la meilleure manière donc de les détecter, évidemment, c'est de mettre la main sur les activistes et puis les exploiter.
Monsieur le ministre, le Cameroun rejette donc ces accusations d'Amnesty International. Qu'est-ce que Yaoundé compte faire? Est-ce que vous pouvez par exemple envisager la publication d'un contre-rapport ou d'un contre-document?
Ou en fin de semaine ou la semaine prochaine, je donnerai une conférence de presse au cours de laquelle nous réunirons tous les éléments, toutes les pièces à conviction qui balayeront donc du revers de la main toutes ces accusations qui sont fantaisistes, mal fondées et dont l'objet est probablement de jeter du discrédit sur une armée redoutable par son efficacité et qui protège l'intégrité territoriale de notre pays.
C'était Issa Chiroma Bakari, le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burundi, le président burundais Pierre Nkurunziza a rencontré son homologue tanzanien John Magufuli à l'occasion de la première visite à l'étranger en plus de 2 ans de Monsieur Nkurunziza. Ce tête-à-tête visait à relancer le dialogue pour une sortie de crise au Burundi d'après Makocha Tembele, secrétaire particulier du facilitateur Benjamin Mkapa. Rien n'a filtré de cette rencontre entre M. Magufuli et Pierre Nkurunziza, à l'issue de laquelle les deux présidents ont appelé les réfugiés burundais à retourner chez eux. Pour une réaction, Eric Manirakiza a joint à Kigali, au Rwanda, le secrétaire général du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, l'opposant François Nyamoya.
Je suppose que pense que ce qu'ils ont dit apportait beaucoup plus sur le processus du dialogue. Mais c'est bien évident que face au public, ils n'allaient pas dire de quoi ils ont parlé. Mais c'est certain que c'est ça qui a occupé plus de temps. Quant au rapatriement des réfugiés, je fais une nuance parce que il y a eu une succession de discours. D'abord celui du président Nkurunziza qui disait qu'il y avait la paix et que les Burundais pouvaient rentrer. Et puis après a suivi celui du président Magufuli. Évidemment, par courtoisie, le président Magufuli ne pouvait pas dire non, monsieur le président ne vous dit pas la vérité, il n'y a pas la paix chez vous. Il ne pouvait que dire dans le même sens, par courtoisie et par diplomatie. Et par ailleurs, le président Magufuli insistait, je crois, par deux fois en disant « Je ne vous chasse pas, je ne vous chasse pas ». Aucun réfugié burundais ne devrait avoir peur en croyant que demain, il sera chassé ou qu'on va le rapatrier de force. Je ne crois pas. Parce que on ne peut pas à la fois qu'on accorde la nationalité et en même temps qu'on refoule les gens.
Vous avez proposé une feuille de route. Quels sont les points saillants que vous proposez pour sortir de la crise?
Ça a été fait dans un souci de gain de temps et d'efficience et d'efficacité. Juste, il faut identifier exactement quelle est la nature de la crise burundaise. C'est non seulement la conséquence de la violation de l'accord d'Arusha de la Constitution, mais c'est surtout l'absence d'élections crédibles qui sont conformes aux standards internationaux, et cela depuis 2010. Et dans notre feuille de route, justement, on insiste sur ça, on dit que la discussion doit porter sur des élections crédibles. Il faut que ce soit des élections qui soient organisées, mais qui ne le soient pas par Nkurunziza et son régime, par d'autres acteurs, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, l'EAC, etc. Des gens tout à fait autonomes en dehors du. Parce que c'est ça le nœud du problème. Tous les autres problèmes ne sont que des problèmes collatéraux. Nous avons proposé une manière de discuter qui porte sur l'environnement nécessaire à l'organisation des élections. Et nous disons que les négociations doivent porter sur cela. Parce que c'est ça le nœud de la crise.
Le troisième mandat n'est plus sur l'agenda?
Absolument, il est toujours sur l'agenda parce qu'en fait, le troisième mandat, c'est une question qui est intimement liée au processus électoral. Nkurunziza, il ne sépare pas les deux. Il ne sépare pas le mandat, le troisième mandat ou le quatrième ou le cinquième d'un côté et les élections de l'autre. Il les lie intimement. C'est pour ça que Nkurunziza tient à contrôler le processus électoral. Le troisième mandat n'intéresserait pas Nkurunziza s'il ne contrôle pas le processus électoral. Parce qu'il sait très bien, très pertinemment, que dans des élections libres et crédibles, il ne pourrait pas passer. Je me réjouis que même le facilitateur a réalisé que maintenant le blocage se situe au niveau de Pierre Nkurunziza. Donc, je dois imaginer et je dois espérer que la démarche de Magufuli, c'était dans le sens de débloquer le verrou qui se trouve du côté de Nkurunziza, puisque l'opposition, elle, a déjà montré sa disponibilité à aller dans le processus de négociation. Et nous, de notre côté, non seulement on dit qu'on va y participer, mais on propose même une manière de rendre ce processus efficient et efficace.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura.
C'était bien entendu François Nyamoya, un leader de l'opposition burundaise. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est cet après-midi que sera donné le coup d'envoi des 8e Jeux de la francophonie en présence de plusieurs dirigeants politiques de l'espace francophone d'Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Abidjan, capitale de la francophonie, jusqu'au 30 juillet prochain, la capitale économique ivoirienne va abriter le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie dédié à la jeunesse. Plus de 4000 participants, artistes et athlètes venus des quatre coins du monde vont se retrouver ici au bord de la lagune Ébrier dans un esprit de fête et d'échange. Ousmane Lougué est peintre burkinabé. Il participe pour la première fois à ces jeux.
On est venu pour chercher la médaille d'or. C'est d'abord la première des choses. Après ça, c'est surtout les rencontres et puis bon voilà, les échanges, c'est surtout ça dans le domaine artistique, ça compte beaucoup. Le cadre est bien, mais bon voilà, ça se passe très bien pour le moment.
Autre délégation présente à Abidjan, la délégation libanaise. Au plan culturel, le pays des cèdres pourra compter sur le groupe Champlain en compétition dans la catégorie chanson. Elias Talouf est membre de ce groupe.
Vous allez voir, vous allez tomber amoureux des chansons parce que ce sont de belles chansons et ce sont des chansons originales. C'est nous-mêmes qui avons fait les chansons et quelque chose de génial.
Les Camerounais sont aussi à Abidjan pour ces Jeux de la francophonie. La délégation venue de Yaoundé compte plus de 120 artistes et athlètes. Et en football, les Lions entendent se faire respecter. Baïzo Olivier, capitaine des Lions Indomptables.
Nous avons un moral très haut pour aborder cette compétition qui commence dès vendredi. Pour nous, nous avons une poule, une très grande poule. C'est-à-dire la poule du Mali, Niger, Congo.
Pour les Jeux, votre ambition, c'est quoi?
Votre ambition pour nous, toute la direction camerounaise, la team camerounaise, c'est de rentrer avec tout au Cameroun.
Avec tout, hein?
Oui, avec tout.
Côté organisation, la Côte d'Ivoire peut déjà se féliciter d'avoir réussi à mettre à la disposition des participants des infrastructures de très grande qualité. Le stade Félix Houphouët-Boigny et bien d'autres sites sportifs et culturels ont été totalement rénovés. Un village pour l'hébergement des délégations a été construit. Les artistes et athlètes sont là, tout est en place en vue de faire de ces Jeux une réussite. Mais avec les bruits de boîte que connaît le pays depuis quelques semaines, la grosse et véritable inquiétude est liée au climat sécuritaire. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, tient à rassurer les participants.
Je les rassure, ce sont juste des opérations sporadiques pour empêcher le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Le niveau d'organisation des forces est tel que notre capacité de réaction sera toujours au rendez-vous.
Plus de 10 000 soldats, gendarmes et policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité de ces Jeux. Des Jeux qui devraient être suivis par quelques 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
1 million de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016 dans le monde, soit presque moitié moins que lors du pic de décès atteint en 2005. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU publié hier en amont de la conférence internationale de recherche sur le sida du 23 au 26 juillet à Paris. La région qui a le plus progressé est l'Afrique australe et de l'Est. Pour l'organisation, la balance a enfin penché du bon côté dans la lutte contre l'épidémie. Pour davantage d'explications, Jacques Aristide a joint le docteur Peter Gase de l'ONU SIDA.
D'énormes progrès ont été faits dans le domaine du traitement, notamment par rapport aux cibles 90-90-90 qui impliquent d'ici l'année 2020, 90% des personnes qui vivent avec le VIH vont connaître leur statut et de ceux-là, 90% seront sous traitement et de ceux-là, 90% auront une charge virale supprimée de façon à ce qu'ils soient en bonne santé ou aussi qu'ils réduisent très fortement le risque de transmettre le virus.
L'Afrique de l'Est et l'Afrique australe sont les régions du monde qui ont accompli le plus de progrès. Qu'est-ce qui explique cela?
Premièrement, c'est aussi la région qui est la plus touchée. Donc le sida, il est très présent dans l'esprit des gens, mais aussi dans l'esprit des politiques. Et donc il y a un fort investissement de moyens qui est fait dans cette région. C'est aussi la région qui amène beaucoup de l'aide internationale, notamment du gouvernement américain, mais aussi du Fonds mondial. Et donc, quand nous regardons, par exemple, le niveau d'investissement, nous voyons que la région de l'Afrique de l'Est et du Sud, c'est une région où l'écart entre ce qui est disponible comme investissement et ce qui est requis, l'écart est assez limité. Pour d'autres régions du monde, l'écart est très grand. Donc, il y a aussi eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés dans cette région, notamment au niveau du traitement, avec à peu près 60% de toutes les personnes qui vivent avec le VIH qui sont sous traitement. Et donc, c'est nettement supérieur à la moyenne mondiale.
Quand vous parlez de traitement, s'agit-il notamment d'une meilleure diffusion des traitements à antirétroviraux?
Oui, c'est exactement ça. Maintenant, il y a aussi d'autres programmes qui sont menés dans cette région, y compris l'utilisation de préservatifs. Et aussi, il y a des programmes qui visent à amener la circoncision pour les hommes, parce que ça aussi a été démontré qu'en circoncisant les hommes, on peut réduire la probabilité de transmission du VIH.
Mais nous voyons que l'ONU SIDA ne veut pas crier victoire. Déjà, beaucoup reste à faire d'après vous?
Bon, c'est sûr. D'une part, il reste un grand écart à combler quand même aussi dans le traitement. Après ça, on voit qu'il y a certains groupes qui sont moins avancés que d'autres. Par exemple, souvent les jeunes qui vivent avec le VIH, ils sont moins conscients, ils ont moins accès au traitement. Nous constatons la même chose aussi pour les hommes. Nous voyons aussi qu'il y a certaines régions du monde où en fait les choses vont pas dans la bonne voie. En Europe de l'Est et l'Asie centrale. Et donc, tout cela nous amène à dire qu'il reste beaucoup d'efforts à mener dans la lutte contre le sida.
Le docteur Peter Gies, directeur du département information stratégique et évaluation à l'ONU-SIDA, était en ligne de Paris. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.